J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Eh bien bonjour à toutes et à tous. Oui, vous êtes bien et même très bien sur O2 Radio 91.3. Bienvenue dans Cinéscence, ce mardi 9 décembre 2025. Alors il est 14h pile ou à peu près à notre horloge et c'est l'heure du cinéma sur O2. Faut-il le rappeler ? Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 10 de Cinéscence, nous allons évoquer un homme et une femme qui ont marqué le cinéma à leur manière. Et pour ce faire, présente avec moi dans le studio celle qui a les yeux bleus d'Angelina Jolie, les cheveux blonds de Charlize Theron, et peut-être le compte en banque de Sandra Bullock, je ne sais pas. Anne-Lise.
Si,
bonjour
moins.
Anne-Lise.
Bonjour Jean-Jacques, ça vous allez bien, bien
oui. Bah oui. Bah oui, oui, je vais très bien.
Avec le compte en banque de Sandra Bullock.
Oui. Présent également celui qui a la coiffure de Yul Brynner.
Oui.
Le chapeau Fedora d'Humphrey Bogart.
Absolument.
Et peut-être la meilleure adresse pour manger un cassoulet à Castelsarrasin. Patrick, bonjour Patrick.
Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Anne-Lise. Alors j'ai peut-être aussi Villefranche de Lauragais hein, comme
ah
adresse.
Oui. Ouais, ah oui.
Juste en face de l'église. Oui. C'est quand même gratiné, c'est bon.
D'accord. Alors aujourd'hui, c'est donc un homme et une femme du monde du cinéma qui vont être mis à l'honneur, ce qui vaut bien un petit jingle.
Et alors, Anne-Lise, votre choix pour la personnalité masculine s'est porté sur...
Eh bien, sur aujourd'hui, je vous emmène en Asie.
Sur aujourd'hui ?
Oui, sur aujourd'hui.
Je connais pas.
Très bien.
Je vous emmène en Asie.
Allez,
allez mais pas n'importe où.
En Corée ?
Non. Dans ce territoire où les coups s'enchaînent plus vite que les répliques. Où la caméra danse au rythme des corps, où les héros volent, parfois littéralement. Un territoire dont l'un des architectes les plus influents s'appelle... Jet Li. Et oui, c'est une légende vivante des arts martiaux. Né en 1963, il grandit dans une Chine en pleine transformation. Très tôt, il est repéré pour son talent exceptionnel en Wushu, cet art martial national qui combine grâce, explosivité et précision. À seulement 11 ans, il est champion national. À 17 ans, il est déjà une star, mais une star du sport.
Et alors, c'est là que commence la légende.
Eh bien oui, tout à fait, car la Chine voit en lui une opportunité. Et elle se dit, pourquoi ne pas mettre son talent au service d'un cinéma martial encore marqué par l'ombre d'un immense et assez extraordinaire Bruce Lee. En 82, Jet Li tourne Shaolin Temple, un film qui va devenir un phénomène culturel. On parle d'un long métrage qui a attiré plus de 300 millions de spectateurs en Chine. Pour beaucoup, ce fut la découverte non seulement d'un acteur, mais d'un style. Le Wushu à l'écran n'avait jamais été filmé de manière aussi pure. Là où Bruce Lee était percutant, animal, direct, où Jackie Chan mesurait l'humour et la chorégraphie burlesque, Jet Li apporte la vitesse, la fluidité et une forme de spiritualité. Son jeu n'était pas seulement physique, il était visuel. Les chorégraphies adaptaient la caméra à son talent et non l'inverse, c'est cela qui l'a rendu unique. Les années 90 marquent son âge d'or en Asie. Avec des films comme Il était une fois en Chine, il devient l'un des acteurs les plus respectés du cinéma hongkongais. Ces films ne sont pas seulement de l'action, ce sont des œuvres qui mêlent patriotisme, réflexion sociale, humour et bien sûr des combats d'une précision assez hallucinante. Si vous regardez un duel de Jet Li, vous êtes frappé par cette caractéristique. On dirait que la caméra n'arrive pas à suivre. Et parfois, eh bien c'est vrai.
Voilà, mais comme beaucoup de légendes asiatiques, son parcours passe par une étape importante, c'est Hollywood. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Bon, on y reviendra un peu plus tard. En attendant... Écoutez une interview de Jet Li où il revient sur les arts martiaux et sur un de ses films, Danny the Dog.
À chaque film, nous voulons créer une nouvelle forme de combat. Mais c'est très difficile. Pour moi, le plus important est d'utiliser les arts martiaux pour faire avancer l'histoire et aider le personnage, comme Danny the Dog. Danny est un petit garçon dans sa tête Mais physiquement, il est très fort et très rapide, un peu comme un chien enragé. Donc nous devions décider quel mouvement et quelle stratégie il adopterait. Vous savez, il saute littéralement sur les gens. Même si 5 personnes l'attaquent, il vous saute d'abord dessus à vous. Il reste focalisé sur vous. Même si on l'attaque par derrière, il ne fait pas attention. Il s'occupe de vous, puis il passe au suivant. Il se bat vraiment comme un chien. Et puis durant le film, il devient plus humain. Il découvre l'amour et la compassion et il essaye de lutter contre ses pulsions. Jusqu'ici, dans les films asiatiques, j'avais incarné beaucoup de gros durs, de gentils, de maîtres en arts martiaux ou de héros. Mais là, je voulais faire quelque chose de différent et faire passer plus de sentiments à l'écran.
La bande originale de Danny the Dog a été composée par le groupe anglais Massive Attack, dont le morceau After Sun avec la chanteuse écossaise Dot Allison.
Alors, notre formule étant un homme et une femme, après Jet Li, quelle est, Patrick, la personnalité féminine que vous avez choisie ?
Eh bien, j'avais envie de vous parler d'une actrice qui a passé sa vie sous les projecteurs, oui, tout en faisant de son mieux pour y échapper. Mmh. Une actrice brillante, une artiste brillante, 2 Oscars, une carrière immense, mais qui continue de donner l'impression qu'on la dérange un peu quand on parle trop fort. Oui, vous l'avez peut-être reconnu, mmh, il s'agit de Jodie Foster. La star la plus discrète d'Hollywood. Si discrète qu'on finirait presque par croire qu'elle se cache derrière un pot de plantes à chaque cérémonie. Alors, Jodie Foster, c'est d'abord un prodige. Elle tourne sa première pub à 3 ans. À 3 ans, moi, je jouais avec des cubes, elle jouait avec les caméras. Et très vite, elle apparaît dans des séries télé. Et à 12 ans. À 12 ans, oui, mesdames et messieurs, à 12 ans, elle entre dans l'histoire du cinéma avec Taxi Driver de Martin Scorsese. Le rôle est dur, provocant, hyper adulte. Et elle, elle livre une performance qui ferait rougir un acteur chevronné. Résultat, une nomination aux Oscars à l'âge où la plupart d'entre nous apprenions péniblement la règle de 3.
Pour les pros.
Ben oui, je parle pour moi. Et pour certains autres aussi. Résultat, eh bien, une nomination, je l'ai déjà dit. Mais voilà, Jodie Foster n'a pas du tout le profil de l'enfant qui, star qui vire au cliché hollywoodien. Pas de scandale, pas de soirée à se rouler par terre sur Sunset Boulevard. Non, non, non. Elle, elle part faire ses études à Yale. L'université, oui, la vraie, avec des livres, des bibliothèques, des dissertations. Hollywood s'est demandé si tout allait bien. À l'heure d'une mère francophile convaincue, elle apprend le français entre 9 et 10 ans. Et cette intelligence, on la retrouve dans ses choix de rôle. Dans Les Accusés, par exemple, un film intense, bouleversant, qui lui offre son premier Oscar. Puis Le silence des agneaux, où elle devient Clarice Starling, cette enquêtrice à la fois brillante et déterminée est capable de discuter avec Hannibal Lecter sans appeler un avocat ni sa mère. Résultat, deuxième Oscar. À ce stade, on soupçonne qu'elle garde ses trophées dans un placard pour éviter qu'il fasse trop de bruit.
Alors son rapport à la langue française, ses souvenirs d'enfance et son rapport à Anthony Hopkins sur le tournage du silence des agneaux, elle en parlait lors d'une interview.
Je pense que les Français m'aiment parce que je parle leur langue.
Vous croyez ?
C'est peut-être tout. C'est la seule raison, en fait.
Vous l'avez appris très jeune.
J'ai appris à l'âge de 9 ans. J'étais au lycée français de Los Angeles. Ça m'a pris un an, quand même, pour parler couramment. Ma mère m'amenait voir beaucoup de films, surtout des films européens. Elle me prenait de l'école et on allait tout de suite voir des films italiens, allemands, français, tous les films de la nouvelle vague. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Mon frère aussi était acteur. Alors c'était un peu le business de Los Angeles. Hein. Tout le monde le faisait, alors pourquoi pas. Moi, mon premier amour, c'était vraiment les mots, les livres. J'adorais les livres, j'adorais parler, écrire. Et j'étais un peu intellectuelle, je vivais dans ma tête un petit peu. J'aimais beaucoup lire l'histoire, etc. Alors je pense que j'aurais été quelque chose d'autre, certainement.
Et vous, ça fait, comme on dit en France, un peu flippé, un peu peur,
oui.
Un peu peur, Anthony Hopkins.
Oui, il m'a fait peur.
Même dans vos face-à-face, tous les deux, en tournage.
Oui, surtout quand on a fait la première lecture, ensemble, je l'avais même pas rencontré, on était face-à-face sur une table avec plein de gens. Et le moment qu'il a commencé à parler, moi j'avais la trouille. C'est vrai qu'on ne s'est presque jamais parlé après. On a fait des scènes ensemble où lui, il était derrière un mur, et moi, j'étais de l'autre côté du mur, et on ne s'est pas parlé. C'était juste à la fin du film, le dernier jour de tournage, et il m'a dit « Tiens, Jodie, tu sais, j'avais toujours peur de toi. » J'ai dit « Non, mais moi, j'avais peur de toi !» Et on s'est donné un gros câlin, et c'était fini. Après, on était amis.
Extraordinaire.
Hein. Bah ouais, elle parle incroyablement bien français pour avoir appris entre 9 et 10 ans.
Elle l'a entretenue quand même.
Bah, oui.
Il y a des Français qui parlent beaucoup moins bien anglais qu'elle.
Tout à fait. Allez, Jodie est non seulement une actrice, mais aussi une chanteuse. En 1977, elle sortait un 45 tours en français qui contenait sur la face A « Je t'attendais depuis la nuit des temps ». Je t'attends depuis la nuit des temps.
S'il vous plaît.
Je ne sais rien de toi, j'ai le cœur qui bat. Comme dans mes nuits de veille, ou mes matins de Noël. Et je m'émerveille, je te vois et je t'appelle. Et j'attends que tu viennes. Je t'attends depuis la nuit des temps. Je savais que tu viendrais. Depuis toujours, depuis que j'ai 10 ans, je savais que je t'aimerais. Dans mes rêves d'innocence, tu venais pour m'emporter. Nous marchions sur des plages immenses. C'était toujours. Plus beau carrière, je viens de dessiner tes yeux et ta bouche souris gentiment. Oh, à chaque retour, tu es plus beau, plus grand, tu es plus rassurant. Je t'attends depuis la nuit des temps, je savais que tu viendrais. Depuis toujours, depuis que j'ai 10 ans, je savais que je t'aimerais. Dans mes rêves d'innocence, tu venais pour m'emporter. Nous marchions sur des plages immenses, c'était toujours l'été. Je t'attends depuis la nuit des temps, je savais que tu viendrais. Depuis toujours, depuis que j'ai 10 ans, je savais que je t'aimerais. Dans mes rêves d'innocence, tu venais pour m'emporter. Nous marchions sur des plages immenses, c'était toujours l'été. Je t'attends depuis la nuit des temps, je savais que tu viendrais. Depuis toujours, depuis que j'ai 10 ans, je savais que je t'aimerais. Dans mes rêves d'innocence.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, 2-3 fois dans l'année? Moi je trouve que c'est dingue.
C'est dingue, c'est dingue. Vous l'avez reconnu peut-être, ce non. Petit jingle qui annonce la séquence ciné, télé et canapé. C'est-à-dire qu'on va vous parler d'un film, chacun de nous, qu'on va pouvoir voir à la télé cette semaine.
Ah et ouais, voilà. C'est bien ça.
Ben oui, vous commencez, Patrick.
Eh bien écoutez, j'ai alors un ou deux.
Un seul.
Non mais le numéro 1 ou numéro 2
2.
Numéro 2, très bien, ça me va. si je vous dis 2015... C'est Alejandro González Iñárritu.
Ouais. Les autres.
Leonardo DiCaprio. Tom Hardy.
Ah, ça fait
The
beaucoup
Island.
De monde.
The Revenant.
Ah.
Ah, mais vous en aviez parlé l'autre jour.
J'ai fait une chronique, mais c'est un film que j'aime tellement.
D'accord.
Que c'est absolument magnifique. Ouais. C'est jeudi 11, donc jeudi 11.
À quelle heure?
À 21h sur Paris Première, figurez-vous.
Très bien.
Jeudi 11. Donc, on ne vous fait pas le pitch.
Non, on l'a fait la dernière fois.
Mais c'est un film d'une violence et d'une beauté absolue.
Tout à fait.
Vraiment très, très, très beau et très violent.
D'accord.
Jean-Jacques.
Oui, merci.
Est-ce que vous avez quelque chose à la télé aujourd'hui, cette semaine?
Parce que c'était prévu, donc j'ai préparé un film que vous allez voir lundi soir.
D'accord.
À 20h55 sur Arte.
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 Le film s'appelle Misery. C'est un thriller de Rob Reiner de 90.
Incroyable.
Alors vous savez, c'est l'histoire de cet écrivain à succès qui a une saga qui s'appelle Misery et qui, après un séjour à la montagne, rentre chez lui à New York. Il est victime d'un accident de voiture et il est recueilli par une infirmière. Il se trouve que cette infirmière est une fana de la saga de cet écrivain. Et ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle apprend en lisant le manuscrit, c'est que l'auteur a décidé de faire mourir son héroïne. Et ça, l'infirmière va pas supporter. Et du coup, elle va se changer radicalement de rapport avec lui. Et elle va se muer en torsionnaire, inflexible. C'est un film qui fait peur et qui est très, très douloureux.
Et c'est avec qui?
Alors, l'infirmière, c'est Kathy Bates, qui d'ailleurs recevra l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle-là.
D'accord.
Il y a aussi James Caan, Lauren Bacall, Richard Farnworth, voilà. Et il faut savoir que avec ce rôle, Kathy Bates a été classée comme la 17e plus grande méchante du cinéma. 17e, juste devant ça? Le requin des Dents de la Mer.
Voilà. Ah bah, donc,
alors on va vérifier bien. Tout ça lundi à 20h55 sur Arte. Voilà.
Lundi quoi? Bah, c'est quoi comme jour lundi?
C'est un lundi.
C'est le lundi, d'accord.
Voilà.
Okay.
Non, c'est le.
Non, c'est lundi. Pas le 20, non.
Non, c'est le 15.
C'est le 15.
Je l'ai dit 3 fois, je ne vais pas le répéter, si.
Tout à fait.
C'est le 15.
Le 15.
Et Alice, le 15, qu'est-ce que vous faites?
Rien.
Eh ben rien. Moi, par contre, la veille, le 14,
ouais. Ah.
Je regarde TFX à 21h10.
À quelle heure?
À 21h10.
D'accord.
Avec un film de et avec Bradley Cooper et Lady Gaga.
Non.
Si. Elle fait des films.
A Star is Osborne. Oh.
Ah bon, c'est une reprise, ça.
C'est la reprise avec Liza Minnelli, quand même. Alors d'accord, mais n'empêche que c'est bien fait et Lady Gaga est très bien et que moi j'aime beaucoup ce film.
Mais vous avez le droit,
que je le trouve vraiment, vraiment chouette et les musiques sont vraiment sympas.
Bah oui.
Donc dimanche, si vous ne savez pas quoi faire, à 21h10,
c'est sur quelle chaîne ?
Sur TFX.
TFX, d'accord.
Vous pouvez regarder Star is Born de et avec. Bon. Bradley Cooper.
Ça nous fait de bons films, ça.
Ça nous fait des chouettes films.
Et il y en a d'autres.
Il y en avait d'autres, d'ailleurs, cette semaine. C'était une bonne semaine pour regarder.
Bonne semaine. Il y a Gagara aussi, éventuellement, ce soir, si vous voulez regarder.
Très bien. Entre autres, il y a Sissi aussi.
D'accord, ça
fait mal. Il y a toutes les Sissi.
Alors, Adelise, il est 14h20. Retrouvons, si vous le voulez bien, je ne veux pas vous déranger, mais retrouvons, si vous le voulez bien, notre acteur singapourien du jour, Jet Li, au moment où il débarque à Hollywood.
Et oui, tout à fait. Et puis, d'ailleurs, contrairement à Jackie Chan, accueilli à bras ouverts, Jet Li arrive dans une période où Hollywood commence à peine, mais à peine, à comprendre le potentiel des comédiens asiatiques. Son premier rôle majeur aux États-Unis, c'est en 98 dans L'Arme Fatale 4. Il y joue le méchant, un méchant silencieux, élégant et redoutable. Trop redoutable même. Mel Gibson lui-même raconte qu'il avait peur de se blesser pendant les répétitions, tant Jet Li était rapide.
Ah bon. Et en 2008, donc 10 ans après, avec Les Seigneurs de la Guerre, il obtient un prix du meilleur acteur. Bande-annonce du film.
108 hommes ont quitté leur village. Ils ont risqué leur vie dans l'armée contre Boldori. C'étaient les premiers hommes de l'armée Shan. Tous les trois, nous les commandions.
Nous sommes des brigands, mais nous serons les plus grands. Emparons-nous du chou. Leur vie, leur argent, leur vie.
Tous vos hommes ont trouvé la mort et vous seul l'avez survécu.
J'ai survécu dans le but de vous voir.
800 vies humaines sont dans la balance. La guerre est un jeu de hasard.
On a fait le serment. Si on meurt, on mourra tous ensemble. N'oubliez surtout pas que cette armée n'a qu'un seul chef. Celui qui est à la tête de cette armée, c'est Fong, c'est lui le chef. C'est comme ça, c'est la guerre. Tout est permis. Un homme sans parole n'est qu'un chien. Il périra.
Ça a l'air calme.
Ouais. Le public américain découvre alors quelque chose d'inédit. Un acteur de film d'action capable de raconter une histoire avec ses gestes. Pas de mots, beaucoup d'impact. C'est le début d'une carrière qui le conduira à Roméo doit mourir, le maître du jeu. Jet Li devient dès lors un pont entre deux cultures. Il apporte à Hollywood une discipline chorégraphique nouvelle, une manière différente de filmer la vitesse, un sens de l'espace dans les combats qui influencera toute une génération de réalisateurs et de coordinateurs de cascades. On peut dire que sans Jet Li, la grammaire visuelle du cinéma d'action moderne serait complètement différente, peut-être moins fluide, moins élégante et moins technique. Dans un monde où Keanu Reeves s'entraîne au kung-fu, où Marvel incorpore des chorégraphies complexes, où les films coréens et indonésiens explosent sur la scène internationale, Jet Li y fait figure de pionnier. Il a contribué à mondialiser les arts martiaux au cinéma bien avant que cela ne devienne une tendance dominante.
Oui, mais Jet Li, c'est aussi une carrière marquée par la fragilité.
Tout à fait, car il avait des graves problèmes de dos, puis une hyperthyroïdie.
Thyroïdie.
On peut peu à peu mis un frein à ses apparitions. Beaucoup craignaient qu'il ne disparaisse de l'écran. Pourtant, fidèle à lui-même, il a choisi de se consacrer à autre chose, la méditation, l'humanitaire et l'éducation. Et chaque apparition, même rare, comme de The Expendables, rappelle une vérité simple. On ne remplace pas Jet Li.
Ah, c'est lui qui joue
dans Expendables, ouais. Ben oui.
Ah ouais, c'est trop drôle, ça.
Il a prouvé que la maîtrise pouvait devenir poésie, que la vitesse pouvait devenir émotion et qu'un silence pouvait être plus puissant qu'une explosion.
Bon.
Jet Li n'a pas seulement donné des coups, il a laissé une trace.
De sang, ça le sol,
entre autres.
Alors en 99, dans le cadre des MTV Movie Awards, Jet Li a reçu le prix du meilleur méchant dans un thriller d'action. Pour L'Arme Fatale 4, dont on a parlé tout à l'heure, film récompensé par le prix de la meilleure musique de film qui contient Premonition, interprété par John Fogerty.
« much is missing, so much to lose. You must be different, been rearranged. Can't pin it down, but I know it's not the same. Well, that's all.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Sur 91.3, Aude Radio, bien entendu.
Alors nous avons quitté Jodie Foster dans sa fonction d'actrice. Mais Jodie ne se contente pas de jouer, elle réalise aussi. Et pas des films anecdotiques, non. Le Petit Homme, The Beaver, Money Monster, des films qui parlent de résilience, de gens cabossés, de situations tordues mais profondément humaines. Et quand Hollywood est trop lent, bah, elle va faire un tour du côté des séries. Orange is the New Black, par exemple, ou Black Mirror. On a connu des réorientations de carrière plus chaotiques, n'est-ce pas ?
Et puis, il y a la Jodie intime.
Oui, alors c'est une femme longtemps très pudique qui a fait son coming out publiquement en 2013 avec un mélange de sincérité et d'humour dont elle a le secret. Une façon de dire « Je suis là, je suis moi, et je n'ai jamais eu besoin de crier pour exister ». Sobre, élégant, sans effet de manche, du Jodie Foster pur jus. Alors aujourd'hui, à un peu plus de 60 ans, elle continue de tourner, de réaliser, de nous rappeler qu'on peut être une immense star sans être bruyante, qu'on peut être puissante sans être tapageuse. Jodie Foster, c'est un peu la preuve vivante qu'à Hollywood, on peut durer sans jamais perdre son calme ni sa classe. Et rien que pour ça, on a envie de lui dire « Jodie, continue de faire du Jodie, on adore ça ». Et le 26 novembre dernier, figurez-vous qu'elle participait à la boîte à questions de Canal+, histoire de se livrer un peu.
Quelle est la différence entre la méthode de travail aux États-Unis et la méthode de travail en France ?
Il n'y a pas tant de différence. Quand on fait du cinéma partout dans le monde, c'est un petit peu une sorte de famille globale. Mais vous travaillez des aurores moins longues que nous. Et les Français, ils mangent beaucoup mieux. Et aussi, il y a très peu de gens sur le tournage en France. C'est-à-dire qu'une personne fait 3-4 jobs.
Tu peux crier sur commande.
Allez, c'est moi, j'ai crié. Bravo, Jodie. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? Raconte-nous. Ah, c'était dans un drive-in. Vous êtes dans la voiture. Enfin, c'était ma mère qui était dans la voiture avec nous, les enfants. Et on était allés voir Docteur Zhivago. Et ma mère, parce qu'on faisait trop de bruit, elle ne nous laissait pas rentrer dans la voiture. Elle nous mettait sur le coffre, là où on met les skis. Et moi, je m'endormais. Et chaque fois que je rouvrais les yeux, je voyais l'Arctique. Je voyais le tundra totalement blanche. Et puis après, endormi encore une fois, les yeux ouverts, c'était encore une fois les tempêtes tout blancs. Ça, je n'oublierai jamais. Les trois films français à avoir vus dans sa vie. Bah, Les Visiteurs, pourquoi pas, parce que ça fait rire et c'est génial. La Nuit Américaine de Truffaut, pour tous les gens qui aiment le cinéma. Et Souffle au cœur, aussi, un film de la nouvelle vague. C'est important pour toi de garder ta vie privée. Pour moi, c'était la survie. Ne pas devoir mélanger la vraie vie et la vie professionnelle, la vie de célébrité, de les garder à l'écart, pour moi, c'était une sorte de survie.
Cette année 2025, oui, Annise, vous vouliez dire ?
Non, de ce qu'elle dit, c'est une grande femme.
Une femme d'une intelligence rare.
Oui, tout à Bravo. Fait, surtout dans ce milieu.
Ouais. Ah oui, absolument. Alors cette année 2025, vous vouliez dire quelque chose, Annise ? Non ? Bon, cette année 2025...
Oui, alors je voulais dire...
a vu Jodie Foster dans un film français, figurez-vous.
Mais
Vie
non
privée.
Incroyable,
non ? Où elle tient le rôle principal, celui d'une psychiatre qui va enquêter sur la mort d'une de ses patientes, persuadée qu'elle est, qu'il s'agit d'un assassinat.
Le film, vous ne l'avez pas cité le
si,
titre ?
Vie privée.
Vie privée, je l'ai d'accord. dit. Mais vous voulez dire quelque chose, Annie ?
Non, je voulais dire que c'était un film qu'elle avait tourné en France.
En français.
Et en Alors, français,
le film
en 2025.
Est réalisé par Rebecca Zlotowski et Johnny est accompagné par Daniel Auteuil, entre autres. Bande-annonce.
J'ai pensé à quelque chose, Gaby, et je veux que tu le prennes au sérieux.
Oui.
Hein, ok ? Bon. C'est à propos de ma patiente. C'est la troisième séance que vous avez raté sans prévenir, Paula. Au bout de trois séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'elle s'est assassinée. Mais par qui et pourquoi ?
C'est la question.
Instinctivement, je dirais que c'est sa fille. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère ?
Mon père le pense. Ma mère venait d'hériter si beaucoup d'argent. J'ai besoin qu'il me croie.
Moi aussi, j'ai envie de savoir maintenant. Bon, vous nous dérangez là. Je suis sur le point de coucher avec mon ancienne femme, alors ça suffit. Merci. Ah bah dis donc, tu voulais l'assommer, ta patiente, hein ?
Quelqu'un a trafiqué ça. C'est son mari toujours qui récupérait les ordonnances. J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui.
Tu fais ses poubelles ?
C'est mon boulot. Je sais ce que j'ai vu. Sa double vie, l'héritage de la femme.
Et pourri mon adolescence et votre séparation, tout ça pour eux.
Alors, c'est à moi, non ?
Oui, c'est à vous.
Alors, figurez-vous qui. Alors, je vais vérifier l'heure qu'il est exactement. Enfin, à 14h33.
Oui.
On est toujours sur Sud Radio. Eh ben, je vais vous proposer un. Non, je vais vous proposer un. Non, d'abord, je vais vous faire réécouter. Parce que je sais que vous aimez beaucoup Jodie Foster qui chante. Alors, je vais
non.
vous passer. Je vais vous. On va la retrouver, la Jodie chanteuse des 145 tours. Vous savez, celui de 77.
Oui.
Super.
Alors, on a écouté la face A.
On est contente, hein. Ouh là là.
On a écouté la face B.
Oh, super.
La vie, c'est chouette.
C'est l'ennui, tant de réveils au matin gris. Et l'on rêve d'un amour que l'on vivrait un jour. Toute une nuit, mais avec qui ? Mais avec qui ? La vie c'est chouette quand on a une amourette. Que l'on soit côté fleur des champs, côté violence, un enfant vous dirait que la vie c'est chouette quand on a une amourette. Il y a tant de jours où ça fait mal, les pages blanches d'un carnet de balles, et l'on rêve de cet amour que l'on vivrait un jour, toute une nuit, mais avec. Quand on dessine un cœur percé entre les lignes d'un cahier, on a écrit que la vie c'est chouette quand on a la tempête. Il y a tant de nuits sans avenir qui se refusent à finir. Et où l'on rêve d'un amour que l'on vivrait un jour. Toute une vie, mais avec qui? Toute une vie, mais avec qui? La vie, c'est chouette. Quand on a une amourette. Dans un île, dans la ville. La vie, c'est chouette. Quand on a une amourette.
C'est qui ça? Ça, c'est quoi ça?
Oui, alors je suis d'accord, c'est quoi ça? C'est pas ce qu'elle a fait de mieux quand même, Jodie Foster, dans cette chanson précédente. Mais enfin, bon, elle est actrice de cinéma, après tout. Donc alors, il est maintenant... Oh, le temps avance. Hein,
oh là 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 là.
Il est 14h36 sur Odo Radio. Et je vous propose, et vous avez entendu le petit jingle juste avant, un petit quiz.
Ah oui.
Vous êtes d'accord?
Bah oui.
Alors, le principe est le suivant, c'est que chaque top qui va suivre, là, je vous propose pour chacun de ces tops deux voix. Une voix féminine, une voix masculine, une voix d'acteur et d'actrice. Et je vous propose de deviner à qui appartiennent ces voix. Vous êtes d'accord?
Allons-y.
Alors, on y va pour la piste 12.
Je viens ici pour apprendre la conduite d'une voiture automobile. Ah. Pas du tout pour me faire dire des politesses par des gens qui pensent que à me reluquer mes fesses.
Tous les matins avec la femme, on se plante devant la mer. Elle se met de l'huile de partout. Et moi, je reste là, à côté d'elle. Je la regarde. Ah, c'est très calme, il n'y a que des vieux et des vieilles. Tu les pousses, ils tombent.
Alors, premier, il y a Marina Foïs.
Alors, bien, un point
et
pour...
Et le deuxième
un point pour Anne-Lise.
Alors là...
Daroussin.
Et c'est Jean-Pierre Daroussin, exactement. Ah, égalité parfaite entre vous deux.
Dans
c'est
le cœur des hommes.
Alors, Marina Foïs, c'était un extrait d'un sketch des Robins des Bois, et Jean-Pierre Daroussin, c'était un extrait de Dialogue avec mon jardinier de Jean Becker en 2007.
Ah, oui. Ouais.
Piste 12, c'était donc maintenant la piste 13.
Allez, Patrick, avance.
Avance.
Allez, mon gros, on avance.
Qu'est-ce qui va pas?
Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde.
Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. À partir de moi-même, c'est moi qui récompense, et c'est moi qui punis. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice.
Alors, il n'y avait rien, aucune attaque personnelle.
Non,
dans
non, j'imagine bien, je pense que c'est Pierre Ninet dans le deuxième.
Ah. Oui, c'est exact. Vous êtes
oh là là.
Oui, oui.
Dans le Comte de Monte Cristo.
Exactement.
Et alors, la première voix.
Et exactement. La première voix, je pense que ça pourrait être genre.
Hein
non,
allez-y, allez-y.
Non, allez-y, Jean-Jacques. Non, Anne-Lise.
Oui, mais moi je sais, je la réponse sous les
yeux. Ah.
C'est plus facile pour vous, évidemment.
Bon, vous n'allez pas trouver, donc je vais vous. Alors, évidemment, c'était Pierre Ninet, le comte de Monte Cristo, oui. Alexandre Lapatelière et Mathieu Delaporte de 2024, de l'année dernière. Et la voix féminine, c'était celle de Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes,
oh
de Caroline Vignal en 2020. Et le Patrick dont on parlait, c'était le
l'âne
qui partait avec elle sur les chemins de randonnée.
Tout à fait, oui.
Et ce n'était pas vous, Patrick.
Non, parce que je ne connais pas bien personnellement Laure Calamy,
bon.
À mon grand regret d'ailleurs.
Alors là, vous êtes nuls tous les deux,
non,
donc on va passer à la...
J'ai un point là. Oh.
On va passer à la piste 14.
Tu n'as ni femme ni enfant, il faut vraiment qu'on mise tout sur ton travail. T'es au chômage, c'est vrai, mais t'es un chercheur. Au chômage. Hein, il faut qu'ils sentent que tu as une vie saine, équilibrée, que tu as des responsabilités professionnelles aussi, que tu remplis.
Je ne supporte plus, quand je travaille, que les gens soient comme ça, agglutinés autour de moi avec leur portable. J'emmerde ceux qui prennent des photos avec leur portable.
Pour tout achat d'une photo, une photo offerte. La même, hein.
Daniel Prévost.
Alors, la voix féminine d'abord, parce que soyons dans l'ordre.
Alors, la voix féminine, je crois que je l'ai. J'irai à Nice Jaoui.
Eh bien, pas du tout. Anne-Lise ?
Non, pas du tout.
C'est pas elle.
C'est Virginie Efira.
Oh !
Dans
oh
Victoria là. De Justine Trier, un film de 2016.
Ouais, ben, d'accord.
Et la voix masculine ?
Moi, je disais ce que je vous ai dit d'ailleurs, que j'ai oublié.
Non, alors c'est un compagnon de route de Marina Foïs.
Pierre Martin Laval.
Pas du tout.
Maurice Barthélémy.
Pas du tout. Vous allez tous me citer sauf le bon.
Oui.
Anne-Lise, vous êtes absente, vous allez faire vos courses ou qu'est-ce qui se passe?
J'en sais rien.
Pardon?
J'en sais rien du tout, j'ai pas reconnu la voix.
Non,
je
non,
la connais
plus,
pas.
Bien, c'était Jean-Paul Rouve.
Oh, bah évidemment, j'allais le dire.
Dans le sens de la fête d'Olivier Nakache et Eric Toledano.
Ah oui, j'allais le dire, effectivement, ouais. Oui.
On continue ?
Allons-y. Tiens, on va se gêner.
C'est quelle ? C'est la piste 15 maintenant, non ?
Vous allez rire, moi j'ai un cerf. Il n'est pas en marbre, il est en ciment, mais il a une âme.
Des losers, des minables. Sur ma route, il y a que ça, des types à la dérive.
Ma vie est un champ de ruines.
Georges, si on s'en est toujours à peu près sorti jusque-là, c'est bien parce qu'on a toujours su se serrer les coudes et que j'ai pu compter sur un type comme toi. Pour faire court, je ne pourrais pas vous payer ce mois-ci.
Jean-Pierre Bacri.
Bah, ce que j'allais dire, Bacri, non ?
Rien, pas du tout.
Ah, ah bon ?
Donc vous êtes vraiment pas bon du tout.
Ah, ah, moi aussi, j'allais dire Bacri. Ah, bah,
la voix féminine, pourquoi c'est tout...
Alors, la voix féminine, je crois que je l'ai, je crois que c'est Annie Girardot.
C'est ce que j'allais dire.
D'accord.
Dire donc déjà une actrice pas toute récente.
Ouais. Oui, c'est ça, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir, parce qu'elle est toujours vivante.
C'est Virginie Fira.
Non, pas du tout, mais ce sont deux acteurs et actrices belges, si ça peut vous aider.
Belges ?
Oui.
Oh, alors là.
Il y a François Damiens, peut-être.
Voilà ce que j'allais dire.
Bon, alors.
Vous arrêtez de copier, vous.
La voix féminine, c'est celle de Yolande Moreau.
Ah,
dans La fiancée du poète de Yolande Moreau en 2023.
Ah oui, d'accord.
Et vous reconnaissez pas la voix masculine, pourtant elle est assez singulière, c'est celle d'Olivier Gourmet. On l'a dans alors, Le grand froid de Gérard Potonnier.
Et oui, c'est pourtant un acteur que j'aime énormément.
Et oui, vous voulez pas repasser le top 15 ?
On a le temps.
Vous allez rire, oui. Moi j'ai un cerf.
Ça c'est Yolande Moreau.
Yolande Moreau, je ne l'aurais pas reconnu, dis donc.
Des losers, des minables, sur ma route,
ah, ouais.
Ça, des types à la dérive.
Ma vie est un champ de ruines.
Georges, si on s'en est toujours à peu près sorti jusque-là, c'est bien parce qu'on a toujours su se serrer les coudes et que j'ai pu compter sur un type comme toi.
C'est vrai qu'il y a un peu phrasé qui ressemble à
Bacri.
Vraiment,
on dirait du Bacri, quoi.
Tout à fait. Mais bon, vous êtes toujours pas très bien noté.
Je suis toujours le meilleur. Hein.
Bon, on va passer au top piste 16, tiens, allez.
J'ai rien fait d'autre et j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre. Et ça me terrorise. Ce qui me vient instinctivement, c'est l'enseignement. Plutôt à l'aise avec les gens, les enfants, ça me connaît.
Si tu peux te balader partout dans la tôle, c'est parce que je t'ai fait nommer Oxy.
Si tu bouffes, c'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi.
Nils Astrup.
Oui, bien sûr, alors on reconnaît son style très agressif. Oui. Non, c'est Un prophète de Jacques Audiard en 2009, oui.
Et la femme
La journée d'Anthony
Juliette
en famille.
Pinoche.
Non, de Nathan Ambrosioni en 2023. Elle joue dans 10%. Elle est en...
Il y en a plein qui ont joué dans 10%.
Ah non, mais celle-ci...
Camille Cotin.
Voilà, exactement. Camille Cotin. Je vous ai aidé un peu, donc vous marquez un demi-point uniquement.
Et c'est parce que j'ai vu la série, surtout.
Voilà.
Pas moi.
Et vous avez vu les publicités aussi pour le café qu'on ne citera
absolument,
pas.
Absolument, oui, tout à fait, qu'on ne citera pas, parce que c'est...
Eh bien, votre calvaire va s'achever, puisqu'on arrive à la piste
17,
la dernière.
Petite, je voulais devenir Dieu. Puis, consciente de mon excès d'ambition, j'acceptais de faire martyr quand je serais grande. Mais il n'y avait pas de frein à ma foudroyante chute sociale. Je fus donc mutée au poste de rien du tout. Mais rien du tout, c'était encore trop bien pour moi.
Le père d'Amélie, ancien médecin militaire, travaille aux établissements thermaux d'Enghien-les-Bains. La mère d'Amélie, Amandine Fouet, institutrice originaire de Guignon, a toujours été d'une nature instable et nerveuse.
Dussolier.
André Dussolier dans...
Amélie Poulain.
Amélie Poulain, oui.
Voilà, de Jean-Pierre Jeunet en 2001.
Et la voix féminine.
Ah, c'est non,
je cale. Là.
Excellente comédienne qui l'a été dans l'adaptation d'un roman de Nothomb.
Oui.
Un film d'Alain Corneau.
Oui.
Ah,
2003.
Oui.
C'est pas tous
Sylvie
les matins
Testu.
Du monde.
Ouais.
Oui, c'est Sylvie
Testu. Bien vu.
Voilà.
Bon,
il y a des gens qu'on reconnaît assez aisément, et puis d'autres, c'est beaucoup plus difficile.
Eh oui, tout à fait.
Donc, c'est vrai.
Je dis pas le vainqueur. Je vais rester galant.
Oui.
Mais ce n'est pas...
Ce n'est pas une femme.
C'est pas une femme. On a reconnu sa voix.
Oui, eh ben, pardon. Hein. Bon. On ne peut pas tout savoir.
Non, mais c'était dur. Hein.
Oui, hein, c'était... Voilà.
C'était
hein.
Dur, Annelise.
Oui.
Je suis d'accord avec vous,
vraiment,
Annelise. C'était très, très dur.
C'était difficile.
Ouais,
c'est la mauvaise foi des perdants.
Allez, à venir tout de suite, notre séquence, les sorties de demain, qui
si
mérite un petit jingle.
Allez-y.
Yeah. Ah, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ?
Oui.
C'est génial ce genre de spectacle.
Incroyable.
Hein. Non, c'est vrai, ça.
Ah bah tiens.
Bon,
ça,
alors...
Alors quoi ?
Alors quoi, c'était quoi ce jingle ? C'était ce qu'on va voir à
partir de demain soir.
Demain,
à partir de demain
au cinéma.
Demain matin, pas
demain. Demain matin,
demain
d'ailleurs.
Matin, demain soir, c'est pareil.
Au cinéma, le matin, c'est pas
interdit. Oui, alors Patrick.
Oui,
ou
Patrick.
Jean-Jacques.
Oui, alors qui ?
Qui ? Celui que vous voulez. Bah allez, Jean-Jacques.
Allez, bon, d'accord.
D'accord.
bien, moi, c'est un film français.
Oh,
de Benoît de Lépine.
Oh,
vous savez, Benoît de Lépine, oui, on le connaît parce qu'il a fait beaucoup Mammouth, d'émissions satiriques sur Canal+. Et après, il avec son, Roland, ouais, son confrère, son complice Gustave Kervern,
oui,
plusieurs films, dont Mammouth avec Mammouth, Daniel avec Depardieu en, en motocyclette, ouais, et Gianni en fantôme. Alors là, le film s'appelle Animal Totem.
Ouais.
Et alors, c'est l'histoire d'un type, Darius, qui arrive à l'aéroport de Beauvais, qui veut rejoindre la Défense avec sa valise à roulettes. Et il décide de traverser à pied les campagnes et les banlieues pour aller jusqu'à la Défense, sans empreinte carbone, pour mener à bien une mystérieuse mission. Voilà, donc c'est avec Samir Ghazmi, l'excellent Olivier Rabourdin,
oui,
Solène Rigaud, Pierre Lottin, Patrick Bouchité. Et l'annonce précise que c'est un film qui se situe entre James Bond et Jacques Tati. Ça promet.
D'accord.
Ça s'appelle Animal Totem.
Mais il a un univers assez particulier. Oui, tout à fait. Ouais, j'aime, oui, bien. Ouais.
Absolument. Allez, Patrick et vous.
Moi, alors, bah, moi, j'ai un film de Jérôme Bonnel, si figurez-vous, qui s'appelle La Condition.
Ah bon ?
Avec Swan Harlow, Galatea Bellogi et Louise Chevillotte. Alors, La Condition, bah, c'est l'histoire de Céleste, qui est une jeune bonne employée chez Victoire et André en 1908. C'est l'histoire de Victoire, de cette épouse modèle dont qu'elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare, mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. Je ne vous dirai pas que l'une va être enceinte, et je ne vous dirai pas surtout qui et de qui.
Pas, très bien.
Et ça, l'ambiance est très, 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 très sombre, très, presque
un
sordide.
Mais un vous l'avez
un polar,
j'ai vu la bande-annonce.
Ah, ouais, la bande-annonce,
j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air très, très intéressant.
Très bien. Et vous, Anne-Lise, alors ?
Eh bien, moi, j'ai un film. J'ai
merci,
un film.
C'est fini.
Jet, c'était tout à l'heure.
J'ai un film chinois.
Ah bon ?
Et
ah,
ouais, on reste toujours dans le surprise, thème. Qui s'appelle Résurrection de Bingan. C'est avec Jackson Yi et Shu Qi.
Oui.
C'est l'histoire d'un homme qui se réincarne dans cinq époques.
Ah.
Et au même moment, au XXe siècle, une femme la suit à travers ses réincarnations.
C'est-à-dire les visiteurs, quoi.
Elle va, non, en fait, elle ne va pas voyager dans le temps.
D'accord.
En fait, elle va le suivre dans sa vie de tous les jours, dans les recherches qu'elle va faire. Elle va se rendre compte que bah, cette personne se réincarne d'époque en époque. Donc, on va la suivre à travers elle, sur cinq époques. C'est quand même un film qui a eu le prix spécial à Cannes en 2025.
D'accord.
Voilà.
Ah,
et qui
d'accord,
a l'air très, très chouette. C'est un univers un peu fantasmagorique, un peu particulier. Et comme souvent dans le cinéma asiatique, l'image et la photographie a l'air incroyable.
Très bien. Ben on ira voir ça. Mais en attendant, C'est une essence est finie.
Oh non.
Bah oui, parce que moi, j'ai quelque chose à faire.
Pour aujourd'hui seulement, il est temps de céder nos places à nos amis du journal d'Eau de Radio, juste après. Mais on ne vous quitte pas tout à fait, puisque
tout
vous pouvez
fait,
nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et qui sait, réécouter l'épisode du jour, ainsi que tous les autres, sur le site d'Eau de Radio. Rubrique Cinéscent. Mardi prochain, pour notre 11e épisode, nous aborderons quelques films qui ont été bonifiés par la participation d'animaux plus ou moins sauvages, plus ou moins dressés.
Et bien sûr, ce sera sur Eau de Radio 91.3, bien entendu.
Allez, comme d'habitude, nous nous quittons avec la perle musicale du jour dénichée par Jean-Jacques.
Et alors,
c'est une nouvelle chanson de Jodie Foster.
Justement, à l'instar de Jodie Foster, des actrices qui chantent ou qui ont chanté, il y en a d'autres. Témoin Arletty, qui en 1931 a commencé sa carrière très influencé par Édith Piaf, mais qui rajoutait un côté caricature et moqueur, comme dans À la Villette. C'était le temps où les disques étaient, n'est-ce pas, en 78 ou...
Oh, ça tournait vite. Hein.
Ouais.
Et alors, à mardi prochain, et en attendant,
bon vent à tous.
Chez les puretins, parmi les catins et le pur gratin des pierreuses. Près des abattoirs où l'on voit le soir, le long des trottoirs, surgir des coins noirs, les rôdeuses. C'est là que j'ai vu le jour et c'est pas du pour, je suis gosse de l'amour et je serai toujours une pourqueuse. cachet par un soir de mai. Donner ce que l'on sait, ne jamais retrouver dans le quartier. La Villette, la Villette, c'est le coin des Garneaux. Y a pas d'aristo. Des guinguettes, des musettes et des petits bistrots où l'on boit du gros. On n'y joue pas du violon, tout comme dans les salons. Oui, mais de l'accordéon, c'est bien plus chouette. Et on y danse la java bien serrée dans les bras d'un petit homme bien à soi à la Villette. C'est au but de Chaumont, par un soir tout blond, sur le petit pont, que j'ai rencontré mon vrai petit homme. Dès le premier regard, j'ai senti son char comme un coup de poignard et mon cœur flanchard à la gomme. Lui qui a senti le coup, il s'est fait très doux et m'a dit dans le cou qu'il sentait du goût pour ma pomme. J'ai pas surfusé et l'on s'est marié sans mère ni curé et sans inviter tout le quartier. La Villette, c'est le coin des Garneaux, y a pas d'aristo. Des guinguettes, des musettes et des petits bistrots, l'on boit du gros. On n'y joue pas du violon, tout comme dans les salons. Oui, mais de l'accordéon, c'est bien plus chouette. Et l'on y danse la java bien serrée dans les bras d'un petit homme bien à soi à la Villette.